Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h09, c'est RMC, c'est le week-end des experts, c'est les animaux, jusqu'à 8h, notre vétérinaire Laetitia Barlerin m'accompagne. Et puis juste après, ce seront les voitures, l'automobile, avec Jean-Luc Moreau qui me rejoindra. Vous le savez, Jean-Luc, chaque dimanche, 8-10, avec toutes vos questions auto, bien sûr. On parlera de code de la route tout à l'heure, entre 9h et 10h. Un automobiliste sur deux avoue avoir des doutes sur la signalisation routière quand il conduit. C'est les résultats d'une étude menée par l'association Prévention Routière. On en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce qui a changé dans le code de la route ces dernières années? Faut-il obligatoirement se remettre à niveau? Est-ce qu'on peut connaître parfaitement ce code de la route? On verra ça tout à l'heure, donc avec Jean-Luc et nos invités. Mais dans les médias, vous le savez, c'est les animaux. Deuxième partie donc de ce rendez-vous avec notre vétérinaire. Laetitia, tout à l'heure, nous parlerons de la corrida. La corrida qui a subi un revers cette semaine puisqu'elle ne fera plus partie en fait du patrimoine culturel immatériel, c'est
de
ça
la France,
hein.
Oui, elle avait été inscrite il y a 4 ans en 2011 à l'étonnement général parce que a priori partie plutôt du patrimoine culturel espagnol.
Effectivement.
La Cour d'appel de Paris a prononcé le fait que non, elle ne faisait pas partie du patrimoine culturel immatériel de la France. Alors, quelles sont les conséquences? On verra cela avec Xavier Baquet, notre avocat préféré.
Voilà, et puis l'actualité qui évidemment coïncide avec ces corridas, puisque, rappelons-le, hier, un spectateur a été blessé lors d'une corrida, un taureau a sauté et il s'est pris en fait les cornes du taureau dans l'abdomen et il est gravement blessé. On en parlera tout à l'heure. D'ici là, bien sûr, vous pouvez à tout moment nous appeler 3216 ou bien animaux@rmc.fr. Tiens, on va évoquer les baleines tout de suite. Est-ce que vous êtes fasciné par les baleines? Franchement, est-ce que vous aimeriez partir en vacances, des vacances, on va dire, pédagogiques, hein, Laetitia, pour découvrir les baleines dans leur environnement? Si c'est un sujet qui vous intéresse, appelez-nous 3216 ou bien écrivez-nous animaux@rmc.fr.
Et nous avons avec nous François Garde, qui est écrivain et auteur du livre « La baleine dans tous ses états » aux éditions Gallimard. François, bonjour.
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 Bonjour, bienvenue. Alors, vous êtes passionné par les baleines, au point de leur consacrer quand même un livre. Pourquoi? Alors, vous êtes fasciné, mais franchement, les hommes sont fascinés par les baleines depuis la nuit des temps, on va dire. Pourquoi justement la baleine fascine-t-elle autant l'homme? Et pourquoi éprouve-t-on aussi de la sympathie pour cet animal? Je vois dans votre livre, par exemple, dans le premier chapitre, vous mettez bien qu'on offre souvent des peluches à un enfant. Et dans ces peluches, il y a toujours une baleine qui représente peut-être quelque chose de très sympathique.
Oui, tout le monde aime les baleines, spontanément. Si on en parle autour de soi, on peut vérifier cette règle. Et vous parliez à l'instant de la corrida. Écoutez, si on compare la baleine à un taureau, on voit toute la différence. Bien sûr, il y a du muscle et il y a de la force, mais il n'y a pas de corne, il n'y a rien de pointu, il n'y a rien qui agresse. La baleine, elle est ronde et on a envie malgré la disproportion des tailles, d'être comme elle, de la prendre dans ses bras. Enfin, c'est quelque chose, c'est un gros doudou, quoi. C'est un doudou immense.
Et en plus, qui est calme.
Elle est calme, absolument. Elle est calme et elle n'a jamais de comportement agressif envers l'homme.
Et alors, vous vous êtes aperçu que la baleine faisait vraiment partie de notre quotidien, alors que la plupart d'entre nous n'en ont jamais vu, hein, ça c'est sûr. Ou alors, si on en a vu, on n'en a vu qu'une petite partie, puisqu'on ne voit jamais la baleine en entier, hein, quand on en voit dans l'océan. Comment l'expliquez-vous, hein?
Mais c'est un mystère pour moi, mais je me suis aperçu en effet que la baleine était très présente dans notre quotidien. Il y a des rues de la baleine ou des places de la baleine un peu partout.
Ah bon?
Oui, il y a une place de la baleine à Lyon, il y a une rue de la baleine à Paris, enfin voilà, donc très loin de la mer. Il y a des magasins ou des restaurants qui portent ce nom. Il y a une galaxie de la baleine tout là-haut au-dessus de nos têtes. Enfin bref, la baleine est partout et faites attention, quand on commence à la chercher, on la trouve. Hein. Elle est partout, très discrète, mais on la voit partout.
Même quand on rigole, en plus.
Et quand on rit comme une baleine.
Voilà,
et
c'est ça. Donc,
ouais. sans faire de publicité, dans le placard de votre cuisine, c'est probablement du sel qui vous fera penser à une baleine.
Ah, c'est vrai. Mais c'est vrai.
Il y en a partout.
Alors, quelle est sa place dans la culture? Parce que vous dites que pour aller vers la nature, il faut passer par la culture. Quelle est la place de la baleine dans notre culture?
J'ai essayé de me demander pourquoi la baleine avait une place aussi conséquente, et l'hypothèse que je propose, mais après tout j'en sais rien, mais il faut bien réfléchir, c'est probablement parce que la baleine effectivement porte avec elle tout un réseau de lié à la culture qui lui donne, si j'ose dire, du poids. Et ça commence évidemment avec la Bible et avec le livre de Jonas, mais on trouve aussi dans cette baleine culturelle, si je puis dire, on trouve aussi Moby Dick, bien sûr, on trouve aussi Pinocchio. On la trouve, toutes ces références culturelles font que c'est un animal qui a un poids vraiment très, très particulier, qui porte avec lui des mythes et qui fait partie de notre culture depuis toujours.
Mais elle est dans toute. Enfin, vous venez de parler de livres, Moby Dick, etc. Jamais elle est méchante, la baleine. C'est vraiment. Elle a toujours le beau rôle.
Oui, surtout qu'on comprend pas très bien comment elle fonctionne. C'est un animal qui est finalement assez peu connu. Je sais pas, vous qui êtes vétérinaire, est-ce que vous avez pris des choses sur les baleines dans vos études de vétérinaire?
Non, il n'y a pas un cursus baleine.
Voilà, mais moi, quand j'étais à l'ENA, j'ai rien appris sur les baleines non plus. Enfin, voilà, c'est un animal qui est dans un trou noir de notre environnement et de ce que l'on connaît sur elle. Donc voilà, elle reste à la fois très présente et très mystérieuse, très calme. Et en même temps, il y a aussi dans la relation avec la baleine, évidemment, l'épopée de la chasse à la baleine. Donc pendant plusieurs siècles, l'homme a combattu la baleine et s'en est nourri. Donc tout ça fait une histoire lourde, riche, compliquée, où l'homme n'a pas toujours eu le beau rôle.
Mais justement, si on parle de la chasse à la baleine, vous en parlez de celle d'hier, celle d'aujourd'hui aussi, sujet sensible. Et en faisant votre enquête, vous êtes aperçu que chez la plupart des Occidentaux, la chasse à la baleine, c'est choquant quand on en parle. On comprend pas pourquoi on tue encore les baleines aujourd'hui, quoi. Pourquoi il y a cette mise à mort commerciale. Et on a l'impression d'ailleurs que ça sauvegarde déchaîne plus de passion que, par exemple, la sauvegarde des pandas, des grands singes ou des éléphants. Pourquoi?
C'est un des mystères de la baleine. La chasse à la baleine, la chasse des en particulier celle des Japonais, suscite une détestation, une colère absolument immédiate, alors que...
Ce qui est quand même normal. Pour moi, c'est normal.
Voilà, et quand vous dites ça, vous dites on réfléchit même pas, quoi. C'est un test de réflexe.
Surtout les Japonais qui nous disent oui, on fait des prélèvements scientifiques alors qu'on sait très bien que c'est de la pêche commerciale.
Non, mais c'est de la pêche absurde, parce que non seulement elle est commerciale, mais en plus elle est déficitaire. Donc c'est vraiment par une crispation nationaliste que les Japonais veulent continuer cette chasse. Et les espèces qu'ils chassent ne sont pas des espèces qui sont en danger. Je défends pas la position des Japonais, mais ils ne mettent pas en péril la survie des rorquals de minke qu'ils chassent. Mais peu importe, on n'est pas dans un discours rationnel, ni du côté des Japonais, ni du côté des adversaires de la chasse. C'est vraiment une affaire de passion. Et si vous regardez d'autres agressions contre la nature, contre d'autres espèces, je sais pas moi, le massacre des éléphants ou des rhinocéros, ça ne suscite pas du tout la même passion. J'ai envie de dire qu'on s'en fout un peu. Quand on y pense, on dit oui, c'est pas bien, mais ça déclenche pas du tout le même réflexe de répulsion que déclenche la chasse à la baleine. Là encore, c'est parce qu'il y a un lien mystérieux entre l'homme et la baleine qui m'a amené à réfléchir sur tout ça.
Alors, ce que je ne savais pas, c'est que Vous parlez aussi beaucoup des chants des baleines, parce que bah, tout le monde connaît les chants des baleines. Vous savez qu'en 77, les gens de la NASA ont décidé d'envoyer une sonde, la sonde Voyager, avec des sons. C'était, en fin de compte, c'était des messages pour des éventuels extraterrestres.
Ouais, c'est ça.
Et donc, dans les messages, il y avait beaucoup de messages différents, enfin, de sons différents, dont des chants de baleines.
Non, c'est étonnant. Il n'y avait qu'un seul son. Les autres messages, c'était par exemple des formules mathématiques
oui.
pour montrer qu'on pigeait le théorème de Pythagore ou la représentation symbolisée d'un homme et d'une femme pour que, grosso modo, les extraterrestres sachent à quoi on ressemble.
Ouais, c'est
et
un peu comme une bouteille à la mer, quoi, ce truc-là. Hein.
Et la sonde Voyager qui a été envoyée en 1977, elle est sortie du système solaire il y a 2 ans.
Oui.
Donc, voilà, au-delà du système solaire, c'est le seul objet fabriqué par l'homme et qui part là-bas quelque part. Hein, c'est vraiment une bouteille à la mer, exactement.
Oui.
Et le seul son que porte cette sonde, c'est un chant de baleine. Et alors évidemment, il faut que quelqu'un le récupère et que quelqu'un ait la technologie pour le lire. Mais si on suppose cela réglé, le son qui va porter l'image de la Terre, c'est pas, on aurait pu imaginer autre chose, hein, une symphonie de Mozart, un discours de Martin Luther King, enfin chacun peut imaginer ce qu'il
aurait dit. Ou des chants d'oiseaux, hein.
Des chants d'oiseaux, ou le bruit d'une corrida, par exemple, pour revenir sur le sujet précédent, enfin bref, chacun peut imaginer, la NASA, ils ont choisi des chants de baleines. Alors là aussi, c'est à la fois très beau, c'est pas nécessairement un chant représentatif finalement de la Terre, parce que pour écouter les chants de baleines, il faut quand même mettre un micro sous l'eau, ce qui n'est pas extrêmement naturel.
Mmh.
On aurait pu imaginer la forêt amazonienne. Enfin bref, ce sont les baleines qui sont parties tout là-haut. Et je trouve ça absolument fascinant.
Alors, François, vous restez avec nous, il est 7h20 sur RMC. On revient dans un petit instant. On va poursuivre sur cet animal mystérieux, la baleine, avec vous. Et puis avec Laetitia, bien sûr. Si vous voulez poser vos questions, réagir, témoigner concernant les baleines, peut-être en avez-vous croisé lors d'une croisière ou peut-être lors d'un séjour éloigné, n'hésitez pas, appelez-nous 3216 ou bien animaux@rmc.fr. Si vous nous joignez par mail, n'oubliez pas le numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. À tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, c'est le week-end des experts, les animaux sur RMC jusqu'à 8h. On évoque la baleine ce matin avec notre invité François Garde, auteur du livre La baleine dans tous ses états, paru aux éditions Gallimard. Avant de retrouver François, Laetitia, un mot quand même sur le cadeau que nous vous offrons ce matin. Les cadeaux que nous vous offrons ce matin, nous vous offrons la box Animalis.
Eh oui, une box spéciale vacances pour votre chien. Je suis désolée pour ceux qui n'ont que des chats. Quoique dans la box, il y a des choses aussi pour les chats.
La gamelle, ça peut marcher.
La gamelle pliable, voilà, de voyage.
Ça, c'est bien aussi pour les chats.
Le pare-soleil pour la voiture, bah ça c'est bien aussi, hein, pour qu'il n'ait pas chaud dans la voiture. Le frisbee, alors là, pour les
chats, je ne suis pas sûr. Je pense que le chat va le regarder passer comme ça.
Oui, il y a peut-être certains chats qui vont. Voilà. Ouais. Des lingettes nettoyantes, ça c'est bien aussi pour chien-chat. Des gouttes aussi pour qu'il déstresse à base de plantes, c'est pas mal. Et puis la laisse rétractable flexi. C'est pas mal aussi. Et puis, bien sûr, le harnais rafraîchissant aussi.
Et oui.
Adapté à la taille de votre chien. Donc, tout ça, c'est le gros cadeau. La box Animalis a gagné, très simplement.
Et il y en a deux à gagner. Donc, allez-y, tentez votre chance. Il suffit de nous envoyer les 3 lettres de votre radio, RMC, par SMS. Donc, ça se passe sur votre mobile. Exclusivement sur votre mobile, vous tapez RMC sur votre portable, vous envoyez ça au 732 16 732 16 et vous participez automatiquement au tirage au sort. Voilà, on vous souhaite bonne chance pour ces box Animalis. Laetitia, on retourne à la baleine.
Oui,
bon, alors c'est vrai que la box Animalis, je ne sais pas si ça aurait vraiment une utilité pour les baleines, j'en suis pas sûr.
Non, mais il n'y a pas grand chose qui est utile aussi, elles n'ont pas besoin de nous.
Aurélie me dit que le harnais existe en plusieurs tailles, mais bon,
harnacher
comme ça une baleine, je suis pas trop.
XL.
Voilà, c'est ça.
10 fois XL.
Oui, parce que c'est vrai que ça, en plus, ça a des dimensions, les baleines, incroyables. Hein.
Oui, justement. Vous, François Garde, qui est auteur, vous êtes auteur du livre La baleine dans tous ses états aux éditions Gallimard. Justement, vous parlez des records de la baleine. C'est vraiment l'animal de tous les records.
Oui, c'est l'animal le plus gros que la Terre porte, ou même que la Terre ait jamais porté, puisque la baleine bleue est plus grosse que même les plus gros des dinosaures. Alors, ça peut atteindre 190 tonnes, mais 190 tonnes, moi, c'est comme les très gros chiffres financiers, je comprends pas ce que c'est, 190 tonnes. Alors, j'ai fait des divisions.
Et
ça fait 27 éléphants, mais enfin, j'ai jamais vu non plus 27 éléphants ensemble. Donc, j'ai comparé avec le poids moyen d'un être humain, et ça représente à peu près 3000 personnes, donc c'est 3 Airbus A380, ou l'Opéra Bastille dans son ensemble. Voilà, donc là, j'arrive à visualiser 3000 personnes.
Ah oui, là, on arrive, voilà. 3 Airbus.
Personnes,
oui.
Et on se dit que ça représente le même tas de viande, si je puis dire, qu'une baleine, et c'est assez fascinant, quoi.
Alors, qu'est-ce qui vous fascine le plus chez cet animal? Parce que, comme vous avez enquêté sur elle, vous avez découvert beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui vous a le plus fasciné?
Moi, ce qui me fascine chez la baleine, c'est que... en principe, elle ne s'occupe pas de nous et en même temps, elle nous renvoie à des tas de choses et notamment à une image de paix, une image de douceur, une image de tranquillité, de sérénité. Et donc, lorsque nous la regardons, lorsque nous essayons de l'apercevoir, eh bien voilà, ça renvoie à des images de paradis perdu, d'un moment où l'homme et la nature vivaient en harmonie. Et c'est vraiment ce caractère apaisant et serein de la baleine, moi, qui m'a vraiment fasciné dans ce livre.
Quand vous dites paradis perdu, on pense au paradis blanc, hein?
Oui, paradis perdu, notamment parce qu'effectivement, elles vont en Antarctique pour manger du plancton avant de revenir mettre bas dans les lagons tropicaux. Mais paradis perdu au sens où d'une non-violence dans la relation entre l'homme et la nature, d'un respect mutuel. Alors, la baleine de nouveau, enfin, on compte pas beaucoup pour la baleine, à condition qu'on ne l'attaque pas. Donc, elle est assez indifférente à notre réalité. Pourtant, quand, par exemple, il y a des bateaux qui viennent observer les baleines avec beaucoup de dégâts, eh bien on voit que la baleine réagit, elle fait des sauts, elle fait des cabrioles, elle fait un peu sa cabotine. Donc finalement, le dialogue entre l'homme et la baleine, il existe, il est très difficile, mais voilà, il semblerait qu'on ait des choses à se dire, et moi ça me fascine beaucoup, justement parce que cet animal est énorme, que lui vit dans l'eau et nous sur la terre, que malgré tout ça, et malgré tout ce qu'on lui a fait, il y ait cette espèce de vibration qui continue et qui est peut-être partagée entre l'homme et la baleine.
D'accord. Bah, en tout cas, merci François.
Merci, vous en parlez très bien. On vous sent vraiment passionné par cet animal. Merci François.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes auteur du livre La baleine dans tous ses états aux éditions Gallimard.
Alors le souci, c'est qu'après avoir écouté François nous parler avec talent de la baleine, Laetitia, on a envie d'en croiser des baleines.
Bah oui.
On est d'accord.
Mais il faudrait le faire intelligemment.
Complètement. Et on va en parler dans un instant.
Et oui.
Comment découvrir intelligemment les baleines? On a quelque chose pour vous. Ça sera dans un instant. On va parler du site sibelleplanète.org avec notre invitée Céline Arnal. Et puis bien sûr, vos questions, vos réactions, 3216 animaux@rmc.fr. N'hésitez pas à nous appeler. On va retrouver la météo, les infos de 7h30 et on est de retour. À tout de suite.
Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, vos animaux sur RMC.
Laetitia Barlerin, une petite question flash, Malatiatia. En moins de 2 minutes maintenant, vous vous engagez à répondre à la question de Dan que nous avons reçue sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Et au passage, vous cliquez sur...
J'aime.
C'est bien. Les chiens allaitent pour se refroidir, mais comment font les chats? La tia-tia.
Ah, d'abord, bien, c'est bien vu, Dan. C'est vrai que, vous savez que nos animaux, alors il fait chaud là en ce moment, eux, ils n'ont pas de glandes sudoripales. Ça veut dire qu'ils ne transpirent pas. Parce que nous, on transpire, c'est pour réguler notre température corporelle.
Voilà, mais les chiens ne transpirent pas.
Alors, comment font-ils? Alors, d'abord, ils ventilent. Ils allaitent. Et puis, ils se refroidissent le corps. Alors, le chat, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va, par exemple, sur les surfaces à l'ombre. D'abord, il recherche l'ombre. Il va sur le carrelage. Il va sur les surfaces froides. Et puis, il dort beaucoup aussi aux heures chaudes, le chat, pour justement s'économiser et pas dépenser d'énergie. Et puis, il se lèche le corps. Et c'est en se léchant le corps, en faisant sa toilette, qu'il se refroidit le corps.
Et oui, puisqu'il se met de la salive, en fait, et il se refroidit.
Et voilà. Et si vous observez bien un chat, de temps en temps, il allaite lui aussi comme le chien. Alors peut-être moins que le chien, mais il allaite vraiment quand il fait très chaud. Il faut savoir que le chat, par rapport au chien, le chat est un animal originaire du désert. Donc il supporte beaucoup plus la chaleur que le chien. Ce qui ne veut pas dire quand même qu'il faut l'enfermer dans une voiture au soleil. bien sûr.
Et bien sûr.
Hein, il souffre aussi quand même de la chaleur, mais il la supporte beaucoup mieux que le chien. Vous pouvez l'aider quand même en ce moment en lui mettant un gant de toilette humide sur le pelage. Offrez-lui une fontaine à chat. Vous savez, c'est ces fontaines où il y a de l'eau qui est rafraîchie, qui filtrée, c'est très bien. Et surtout, dernier petit conseil, une serviette humide sur un étendoir et ça fait un climatiseur sous l'étendoir et le chat ira comme ça rechercher de la fraîcheur.
RMC, c'est au 32-16.
34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur.
Et au 7-32-16.
65 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, le week-end des experts. 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, 7h34, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux. Laetitia Barlerin à mes côtés jusqu'à 8h. Et puis ensuite, ce sera l'automobile, vous le savez, comme chaque dimanche, avec Jean-Luc Moreau qui sera là en direct entre 8 et 10 et répondra à toutes vos questions auto. Laetitia, dans un instant, nous allons parler de la corrida qui est radiée du patrimoine culturel immatériel de la France. Voilà, en fait, elle avait été... Inscrite il y a quelques années de cela.
Voilà.
Et là, elle est enlevée maintenant.
Générale d'ailleurs. Et maintenant, elle est enlevée. La Cour d'appel de Paris a annoncé cette semaine que la corrida ne faisait plus partie du patrimoine culturel français.
Voilà. Et puis, on évoquait tout à l'heure cet accident qui s'est déroulé hier, suite en fait à un taureau qui a attaqué un spectateur. C'était pas lors d'une corrida, mais d'une course camarguaise qui n'a rien à voir, puisqu'une course camarguaise c'est une fête, c'est une célébration, tout comme la corrida d'ailleurs, mais là il n'y a pas de mise à mort de l'animal, donc je tenais à remercier nos auditeurs qui nous ont informés, alertés, notamment Alain qui nous a envoyé un petit mail. Laetitia, pour l'instant on parle des baleines.
Et oui, des cétacés et du fait de les observer, et alors ça peut se faire intelligemment, et nous avons avec nous Céline Arnal qui est directrice de l'association Si Belle Planète qui propose des séjours d'écotourisme en Méditerranée pour le comptage des cétacés. Céline, bonjour.
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 Bienvenue. Alors, une façon intelligente d'approcher les baleines et d'autres mammifères marins, c'est de devenir éco-volontaire. Alors, dites-nous d'abord ce qu'est un éco-volontaire.
Ben, un éco-volontaire, c'est une personne qui va passer des vacances, comme vous le disiez, entre guillemets, intelligente, c'est-à-dire que durant ses vacances, qui va rejoindre une équipe de scientifiques ou en tout cas de spécialistes de la protection des animaux ou de la biodiversité, et qui va les aider concrètement sur le terrain dans leur travail de recherche, de recensement, travail qu'ils peuvent avoir.
Alors là, votre association propose différents éco-volontariats auprès de scientifiques qui œuvrent pour la protection animale, dont des séjours en Méditerranée pour étudier les baleines et les dauphins. Alors, peut-être que certaines personnes se disent des baleines en Méditerranée.
Oui, il y a encore des personnes qui se le disent, mais en fait, détrompez-vous, on a la chance en Méditerranée d'avoir des baleines, comme il y en a partout d'ailleurs, et dont le rorqual commun, qui est le deuxième plus grand animal au monde,
oui.
Et avec une population, ne serait-ce que dans le nord de la Méditerranée occidentale, plus vers nos régions. La population est estimée, on ne sait pas trop en fait, mais entre 3 et 5 000 individus.
Hein. Ah oui, quand même.
Il y en a quand même.
Ah oui.
Oui, oui.
Et alors, c'est des gros gabarits, c'est pas des petites baleines.
Oui, ils font un peu plus de 20 mètres.
Ah oui.
Donc ça, on a ça, puis on a des cachalots, puis plusieurs espèces de dauphins. Les dauphins de Rissau, qui sont des beaux dauphins d'ailleurs, qui doivent faire à peu près 4-5 mètres de long.
Mmh.
On a en tout, on peut observer 7 espèces de cétacés au large des côtes françaises.
Alors, ce qu'il y a de bien avec vos expéditions, parce que ce sont des expéditions scientifiques que vous proposez donc à des éco-volontaires, c'est que justement on est avec des spécialistes, donc on va vraiment vers ces mammifères marins et ils savent exactement qui est qui.
Donc déjà, les éco-volontaires, eux, ne sont pas des scientifiques. C'est-à-dire que n'importe qui peut participer, c'est le principe.
Oui.
Et être sous l'encadrement d'un spécialiste. Alors nous, là, à bord des expéditions, il y a des éco-guides, qui sont des gens qui ont toutes les compétences et qui sont formés, et qui vont apprendre aux éco-volontaires à observer à chercher, parce que évidemment en mer c'est des longues heures aussi de recherche, mais à chercher. Puis une fois qu'on trouve les cétacés, à les observer, à noter leur comportement, à noter toutes les informations nécessaires pour la science, puisqu'on toutes les données qu'on prend vont servir aux scientifiques avec qui on travaille. Et puis ils vont aussi pouvoir leur expliquer, bon, les éco-volontaires vont pouvoir bénéficier d'explications et de voilà, sur la biologie de la Méditerranée, la faune, la flore, un peu tout ce qu'on y voit, quoi.
Alors, est-ce qu'il faut une compétence particulière pour faire ces expéditions en tant que éco-volontaire?
Il faut pas avoir le mal de mer, quoi.
Voilà, il faut être mais on se l'a dit, même ça se travaille.
Quand ça se travaille,
7 jours, même si vous êtes un peu groggy le premier jour, après vous êtes bien. Non, pas de compétences, mis à part avoir la patience peut-être de regarder, parce que c'est vrai que c'est des quarts d'observation. Faut être prêt à vivre cette expérience. C'est une expérience communautaire aussi, hein, toute la journée ponctuée par des quarts d'observation, mais aussi participation à la vie à bord avec des quarts de vaisselle.
On fait la vaisselle, on fait la cuisine.
On fait tout. C'est-à-dire c'est un voilier sur lesquels il va y avoir 6 éco-volontaires, un éco-guide et un chef de bord. Et toute la journée est ponctuée, et donc tout le monde participe à tout. Donc ça va être de la préparation des repas, vaisselle, ménage, mais aussi il y a ces fameux quarts d'observation qui durent 2 heures. Et toute la journée, les équipes se succèdent sur le pont du bateau pour observer le large, de manière à ce qu'on ait en permanence des yeux qui observe.
Alors, cela dit, il faut avoir de la chance, parce que on peut imaginer qu'il y a des périodes où on verra moins d'animaux que d'autres, non ?
Oui, c'est vrai. Bon, alors déjà, il y a les saisons, hein. Donc nous, la saison estivale est quand même la saison la plus propice aux rencontres. Ouais. Et après, je veux dire, la chance, c'est surtout lié à la météo. C'est-à-dire que nous, dès que le temps nous permet d'avoir des conditions d'observation, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des grosses vagues formées,
et oui,
on observe souvent des choses.
D'accord.
Ce que font les éco-volontaires et les scientifiques sur le bateau, ça sert à quoi après ?
Alors, toutes les informations sont rentrées dans une base de données qui est partagée. Alors, elle est partagée avec des laboratoires de recherche avec qui nous travaillons, dont un qui est à Montpellier, qui s'appelle Éco-Océan Institut. Donc, ça va servir à faire des publications scientifiques, voilà, tout simplement.
Et mieux connaître les baleines et les dauphins en Méditerranée, en fin de compte.
Donc, c'est mieux les connaître, mais surtout estimer. Alors, en ce moment, ce qu'on fait beaucoup, c'est on essaie d'estimer les populations d'espèces les moins connues. Mais en plus, on essaie d'estimer l'impact de l'activité humaine, notamment du trafic maritime, parce que ça devient une des préoccupations majeures, hein, sur par rapport aux cétacés. Il y a vraiment des bateaux de plus en plus partout. Et puis, estimer les zones à risque de collision, par exemple les zones de dérangement, là où les cétacés sont avec des petits, où ils viennent se reproduire chaque année. Donc, pouvoir dire, à tel endroit, à tel moment de l'année, mieux vaut éviter d'y aller, ou alors avoir une navigation avec une vitesse réduite, par exemple. Donc, donner des recommandations aussi aux usagers.
Alors, je vous interromps une seconde, Céline, puisque depuis ce matin, nous vous interrogeons sur le site web d'RMC, rmc.fr, c'est notre question RMC Wamiz, hein, Laetitia. Seriez-vous prêt à consacrer vos vacances à aider les animaux? C'est la question qu'on vous pose donc avec RMC Wamiz. Oui, ce serait un grand plaisir à 67%, pourquoi pas 18%, et non, je préfère me reposer 15%, voilà. Donc c'est quand même positif.
Positif pour vous,
Céline. Céline, malgré tout,
prometteur, ça.
Malgré tout, c'est quand même des vacances, Céline.
Oui, c'est des vacances. Pour moi, ça l'est. Enfin, après, ça dépend. En effet, comme vous dites, il y a, je crois, 15% des personnes qui ont répondu pour lesquelles ça ne le serait pas. Mais ça reste des vacances. C'est-à-dire, vous êtes sur un voilier, en pleine mer Méditerranée.
Pas de smartphone, pas de tablette.
Alors voilà, c'est l'occasion pour débrancher total.
Ouais, puisque, pour se déconnecter,
en plus, on ne capte pas au large.
Et voilà, donc là, voilà.
Ça c'est fait. Et puis évidemment, tout ça c'est ponctué de pauses où on peut se baigner. Quand même, la vie sur un voilier, c'est sympa.
Ça coûte combien, Céline ?
Alors, au niveau du coût, on est sur... on va dire que ça coûte 1000 euros pour une semaine, mais c'est déductible d'impôts. C'est-à-dire que ça coûtera réellement 340 euros la semaine aux personnes qui participent.
C'est-à-dire qu'on va, on va vous donner 1000 euros, mais après on va pouvoir déduire une partie importante, hein, non négligeable de cette somme, sur notre déclaration d'impôt, c'est ça ?
Exactement, 66%, puisque c'est un don qui est fait à notre association pour ce programme de protection de la biodiversité.
Et on peut peut-être demander à son entreprise de participer aussi, peut-être ?
Alors, ça, c'est une autre partie des éco-volontaires. C'est-à-dire que nous, on accueille les éco-volontaires dans le cadre de congés éco-solidaires. C'est-à-dire qu'on fait un partenariat de mécénat entre un employeur et notre association. Et ce dernier envoie, donc va payer les congés. Durant leur congé, il va payer les missions d'éco-volontariat à ses employés.
Ah, très bien. Il y a encore de la place pour cet été ?
Alors, il y a de la place au mois de septembre. Nous sommes complets jusqu'à fin août.
Vous êtes victime de votre succès. Bon, voilà. De toute façon, vous avez d'autres missions, d'autres voyages, entre guillemets, intelligents pour préserver la nature.
On en a partout.
Voilà, vous en avez pas quand même.
Mais pour cette expédition, il faut savoir qu'il reste encore, il y a 4 semaines en septembre. Et septembre reste la saison. Enfin là, c'est plus personnel ce que je vais vous dire, mais pour moi, c'est la plus favorable aux observations. Il y a moins de bateaux, les conditions de température sont excellentes. L'arrière-saison est très bonne dans le sud. Et souvent, c'est là qu'on observe vraiment bien les animaux et de très près.
Si on a la chance de pouvoir partir comme ça en cette période, c'est top.
Voilà.
Vous avez raison. Merci beaucoup, Céline.
Merci beaucoup, Céline.
Donc, merci à vous.
Donc, je répète que vous êtes directrice de l'association Si Belle Planète. Sibelleplanète.org sur votre ordinateur, faites Google Sibelleplanète et vous trouverez toutes les indications sur cette association.
Alors Céline, vous pouvez rester avec nous. On a Edwige qui nous a rejoint au 32-16 et qui voulait témoigner ce matin. Bonjour Edwige.
Oui, bonjour. J'aime beaucoup votre émission.
Oh, c'est sympa.
Merci Edwige. Merci Edwige.
Alors vous avez vu des baleines ?
Oui, alors je suis partie au Canada avec ma petite fille de 13 ans.
Oui.
Et notre idée, c'était entre autres de voir des baleines. Alors, nous avons été à Tadoussac, au nord du Québec, au bord du Saint-Laurent.
Oui.
Et là, moi, j'espérais qu'on allait voir des baleines parce que c'est pas garanti. Hein.
Ah ben, elles vous attendent pas.
Exactement, on n'avait pas rendez-vous.
Hein. Ben voilà, elles n'ont pas de contact avec l'agence de voyage.
Voilà. Oh, mais on n'avait pas d'agence, on était toutes les deux.
Et alors ?
Et alors, j'ai choisi le Zodiac. Hein.
Oui.
Parce que il me semble qu'on était au ras de l'eau et qu'on allait mieux voir. C'était un gros zodiaque, on était environ 25. Hein. Et là, mais alors le spectacle que nous n'oublierons jamais, parce que des baleines, nous en avons vu.
et c'est quoi l'impression ? C'est de se trouver très petit à côté ?
Mais écoutez, elles dégagent un tel calme qu'on ne peut pas du tout dire qu'on ait peur, vous voyez ? On voit ces énormes dos qui sortent, hein, et puis elles replongent, et puis on voit les jets d'eau qui sortent, là, vous savez.
Hein,
et nous n'avons eu absolument pas peur, hein, c'était tranquille quelque part, vous voyez.
Oui.
Et puis après, alors c'était un grand tour, vous voyez, on en a vu beaucoup, et aussi des baleines blanches, comment ça s'appelle, des belugas, je crois.
Oui. Vous en avez vu aussi, c'est super.
Oui,
ça.
Oh, mais c'était le festival.
C'est génial. Merci beaucoup Edwige pour ce petit témoignage. Merci beaucoup.
Merci,
Laetitia,
Edwige.
Vous avez vu vous des baleines ?
Ah oui, j'en ai vu. J'en ai vu en Guadeloupe et j'en ai vu en Afrique du Sud.
Voilà,
mais c'est des moments.
Ça prend que la même émotion
unique.
Que lorsqu'on voit des dauphins, par exemple.
Ah,
c'est vrai que quand on voit des dauphins,
c'est pas pareil, parce que les dauphins sont vraiment dans l'action, on les voit sauter, etc. Les baleines, c'est tout en douceur, c'est la force tranquille, et en même temps, elles sont très émouvantes.
Ouais.
On est ému et on est devant le spectacle, on est ému, on a quelque chose qui se passe. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe qui est étonnant.
Très bien, on va revenir dans un instant. Laetitia, on va changer de sujet, on va quitter l'eau pour revenir sur terre, sur la terre ferme, et évoquer en fait la corrida qui est radiée du patrimoine culturel immatériel de la France. On va en parler avec Maître Xavier Baquet, avocat à la Fondation 30 millions d'amis, qu'on va retrouver avec beaucoup de plaisir dans un instant. À tout de suite, c'était RMC.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
7h50, le week-end des experts, les animaux. Merci d'être avec nous. Tout à l'heure, Laetitia, on va retrouver notre vidéo LOLCAT de ce dimanche matin. Une vidéo qui est très très drôle. C'est des amitiés entre animaux, mais des amitiés étonnantes.
Oui.
Par exemple, un chien qui s'amuse avec un éléphant.
Voilà, un tigre avec un ours.
Voilà, il y a des singes aussi. Enfin, il y a des couples improbables. On va en parler dans un instant. C'est une vidéo que vous pourrez retrouver sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Pour l'instant, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Maître Xavier Baquet. Bonjour Maître.
Bonjour à tous les deux.
Bienvenue.
Comment ça va Maître
Xavier.
Très bien, très très bien.
Ça faisait longtemps, hein, dites donc.
Oui.
Mais là c'est l'occasion, parce que là, la Fondation 30 millions d'amis est... Voilà, a combattu cette décision. Donc je vous rappelle que vous êtes avocat de la Fondation 30 millions d'amis, et on va parler de la corrida, parce que cette semaine, nous avons appris que la corrida était radiée du patrimoine culturel immatériel de la France. Et c'est vrai que, bon, alors la corrida, c'est toujours un sujet sensible, polémique en France, mais même sans prendre forcément part, tout le monde s'est étonné il y a 4 ans quand on a classé la corrida dans le patrimoine français, alors que bon, la corrida est quand même d'origine espagnole. Dites-nous d'abord dans quelles conditions cela a pu se passer.
Bah, écoutez, moi je pense que la condition est assez limpide quand on est professionnel du droit et quand, comme moi, on a travaillé au Parlement préalablement, c'est-à-dire qu'il y a eu du lobbying qui a été fait auprès de certains élus pour que ça puisse être inscrit en tant que tel. On sait pertinemment que le lobbying des pro-corrida est très influent en France.
Oui.
Et qu'on ne peut l'expliquer que comme ça, puisque il n'y a aucune histoire culturelle, aucune histoire philosophique de la corrida en France. Je veux dire que la corrida est une histoire espagnole, en tout cas ibérique, évidemment, mais pas en France. Donc on peut pas dire décemment et logiquement que ça fasse partie du patrimoine culturel français.
Mettre quand même un peu, parce que c'est vrai que dans le Gard, enfin en tout cas dans cette région-là, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'il y a des corridas.
Non, mais tout à fait, François. Mais comme vous l'avez dit, ça fait partie une région qui est concernée notamment par les mais ça n'en fait pas un patrimoine culturel national, alors que en Espagne effectivement que ce soit en Catalogne ou dans toute l'Espagne effectivement c'est beaucoup plus marqué. Non, c'est du lobbying qui ont réussi leur travail. C'était une aberration. Alors là où effectivement la fondation a été, au fer de lance avec d'autres, parce qu'il y a beaucoup d'associations anti-corrida, mais la fondation, je pense, a fait bouger les lignes, notamment parce que c'est elle qui a été à l'origine de la modification du code civil. Donc on ne peut pas, d'un côté, reconnaître le caractère sensible de l'animal, et de l'autre côté, continuer dans cette lignée où on tente de dire que la corrida est quelque chose tout à fait normal et qui plus est culturel. Donc cette décision...
Et c'est quoi les conséquences? Qu'est-ce que ça va changer que la corrida soit plus inscrite dans le patrimoine culturel
français? Parce que comme vous le savez, on a une disposition du code pénal qui évite de qualifier d'acte de cruauté certaines pratiques comme les combats de coqs et notamment la corrida. Alors, j'ai un trou là, je recherche l'article en vous parlant, mais je l'ai plus en tête, mais peu importe. En tout cas, c'est les combats de coqs, les corridas de tradition, donc, parce que ce sont considérés comme des manifestations de tradition locale notamment, et donc le fait d'entraîner la mort de ces animaux n'est pas considéré comme un civil grave avec de cruauté. Moi, je crois que la Cour administrative d'appel de Paris, là, le 4 ou 5 juin, a ouvert la voie à ce que, à terme, comme ce qui se passe en Espagne d'ailleurs, la corrida ne soit plus pratiquée en France.
Bah, d'ailleurs, on a souvent des sondages sur la corrida. C'est vraiment un sujet qui passionne les Français, hein, faut le dire. Et il y a un dernier sondage en avril 2015, donc il y a un mois, qui révèle que 73% des Français sont favorables à l'interdiction des corridas.
Alors, moi, je vais vous dire, les sondages, alors c'est très bien, mais si on, sans faire de politique, vous avez un sondage qui vient de sortir en disant que 75% des Français ne veulent plus de parti politique, ne veulent plus de candidat de parti politique pour les présidentielles. Mais vous avez un autre sondage qui vous dit qu'un tel est mieux placé, un autre est mieux placé. Bon, ouais, le français, par définition versatile, on le sait. Alors, c'est tant mieux que les Français.
Oui, mais on voit quand même une évolution dans les sondages. Parce que ça, voilà.
Effectivement.
Et il semblerait aussi dans les sondages que ce soit les femmes et les jeunes qui soient vraiment anti-corrida.
Non, mais je pense qu'il y a aussi, une génération qui se renouvelle et peut-être que les anciennes générations étaient peut-être plus intéressées par les corridas et moins les nouvelles. Mais il faut dire aussi qu'il y a d'autres événements liés à la tauromachie qui sont sympathiques. Par exemple, quand il y a des courses de taureaux en Camargue, etc. Où là, c'est beaucoup plus.
Oui, sans mise à mort.
Voilà. Mais bien sûr, là, c'est véritablement une célébration qui est très sympathique.
On pourrait tout à fait imaginer, c'est pas une corrida, c'est les goélands.
Ah ouais, oui, on les entend bien.
Ils ont leur mot à dire. Hein.
Voilà, on pourrait tout à fait imaginer de repenser ce spectacle.
Bien sûr.
Donc,
on est d'accord.
Ce qui choque la plupart des gens et ce qui me choque également, c'est deux choses. La première, que l'on puisse ouvrir ce spectacle à des mineurs, c'est-à-dire des mineurs à qui on va montrer un acte de cruauté qui arrive à une mise à mort, quand vous savez que la société va mal et que n'importe qui peut tuer n'importe qui sur un coup de tête, et on le voit tous les jours dans nos journaux. Bon, on montre ça à des mineurs, et deux, qu'on arrive à une mise à mort inutile. Mmh. Donc, si vous voulez, c'est le côté mise à mort qui est parfaitement contesté. Mais le spectacle aux alentours, avec cette course de vachettes, mais pourquoi pas?
Ouais, c'est très sympa.
On pourrait tout à fait repenser tout ça.
Merci maître.
Eh ben, c'est moi qui vous remercie.
Merci
à très
beaucoup.
Bientôt.
Avocat à la Fondation 30 millions d'amis, maître Xavier Baquet, et c'est une belle victoire, hein, évidemment, pour l'association.
Pour les associations en général de protection animale.
Laetitia, on termine avec notre vidéo LOLCAT de ce dimanche matin, et ce sont des animaux qui s'aiment.
Tendresse.
Voilà.
C'est l'amitié entre des animaux qui ne sont pas de la même espèce. Alors vous avez des chiens avec des éléphants, il y a tigre, ours, singe, chien, qu'est-ce qu'il y a encore, chat, chien, chèvre, cheval, et c'est que de la tendresse.
C'est trop mignon, voilà, une vidéo à retrouver.
Et puis alors la dernière image est extraordinaire avec l'orang-outan.
Voilà, alors, sur la page Facebook de vos animaux sur RMC, vous cliquez sur j'aime. On voit même Jean-Luc Moreau avec un être humain, c'est pour vous dire. Hein. Donc véritablement, il y a une variété assez importante. Laetitia, on se retrouve dimanche matin. Dimanche prochain.
C'est pas moi qui l'ai dit. Hein.
Non, je vous remercie.
Mais cela dit, moi, je m'en suis pris une ou deux tout à l'heure. Hein. François Sorel, la baleine, enfin des trucs comme ça.
Comment ça? Mais je ne vous visais pas.
Ah bon, d'accord, excusez-moi.
C'était une spéciale cétacée. Alors, je ne sais pas pourquoi Jean-Luc rentre dans le studio. Ouais.
Je suis très baleine, mais de soutien-gorge, moi.
Voilà. Ah oui, c'est vrai, ça peut être pas mal. Je crois que c'est une bonne conclusion, là. C'est assez, ça suffit. Merci Laetitia.
Oui, bon dimanche à tous, je vous embrasse. Passez un très bon week-end et à la semaine prochaine.
Et dans un instant, Jean-Luc Moreau pour l'automobile.
Exactement.
Tout va bien Jean-Luc?
Parfait.
Bon.
Vous savez que vous allez, comme c'est pas votre jour.
Oui, je sais que c'est pas votre jour.
Et dans la deuxième heure, on va parler code de la route.
Ouais.
Alors, il est possible qu'il y ait des questions, vous savez, comme ça. Genre,
un
panneau
quiz.
Avec une baleine entourée et rayée, ça veut dire quoi?
Je crois que je vais y aller, moi. Je vais y aller. Je vais aller me recoucher. Allez, dans un instant, la météo et les infos.
Un sondage qu'un Français sur deux est des doutes sur sa connaissance du code de la route.
Ah, tu m'étonnes. Allez, la météo, les infos et on revient sur RMC. À tout de suite.
Retrouvez vos animaux en podcast sur rmc.fr.